qu'est-ce qui va faire marcher? C'est une question qui n'est pas facile, mais disons que j'essaie d'œuvrer dans la mesure du possible pour le bien de la grande famille humaine. Si je dis ça comme ça, c'est un peu pompeux, grandiloquent, mais disons que j'ai une petite passion qui s'appelle égalité. Et donc, j'essaie de me battre pour diffuser ces idées d'égalité en partant évidemment des luttes concrètes ici et là. Par exemple, l'égalité pour moi, c'est que tout un chacun puisse vivre décemment, avoir tout ce qu'il lui faut, vivre décemment. Mais pour vivre décemment, cela suppose, disons, d'être en mesure de participer à la gestion des affaires, disons, publiques. Et donc, c'est ce que les anciens Grecs avaient compris. Si on vit décemment en égo, il faut qu'on soit impliqué dans la chose publique. Et donc, c'est ça l'égalité politique. Donc, c'est une condition pour l'égalité, disons, sociale, socio-économique. Pas une égalité mimétique, arithmétique, mais une égalité, disons, articulée autour des idées de vie commune décente. Voilà.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Ndongo Sambasila, économiste, membre du bureau de l'Afrique de l'Ouest de la Fondation Rosa Luxembourg, ex-conseiller à la présidence de la République du Sénégal, de passage à Nantes, invité par l'association Survie.
Je suis intéressé par les sciences sociales, donc à un moment donné, on se dit que l'économie actuellement, voilà, détermine un peu tout, semble déterminer un peu tout dans la marche du monde. Donc j'ai été amené à m'y intéresser pour essayer de comprendre un peu l'environnement dans lequel nous nous mouvons. Et donc, je me suis plus spécialisé dans ce qu'on appelle l'économie de développement, c'est-à-dire que c'est la branche qui s'intéresse, disons, aux particularités des pays dits en voie de développement et qu'on appelait autrefois les pays sous-développés, pays du tiers-monde. Maintenant, on dit pays du Sud, voire du Sud global.
Vous êtes aussi membre de la Fondation allemande, dont la vocation, c'est de mettre l'homme avant l'économie.
C'est tout à fait cela. En fait, c'est une fondation politique allemande qui porte le nom de Rosa Luxembourg, qui est une grande héroïne, disons, révolutionnaire polonaise, qui a par la suite pris la nationalité allemande. Et donc, on a des bureaux régionaux un peu partout à travers le monde. Le siège est à Berlin. Et on fait dans le domaine de l'éducation politique pour promouvoir, disons, des idées, disons, de socialisme démocratique, c'est-à-dire vivre en commun, mais d'une manière égalitaire.
On va partir de l'objet de votre venue à Nantes.
J'ai été invité, et c'était un grand honneur, par l'association Survie. Donc Survie, c'est une association qui a été créée en 1985 et qui lutte contre ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire, disons, les liens néocoloniaux qui existent entre les élites françaises et les élites africaines et aussi qui participent à maintenir les populations africaines dans un état de servitude. Et donc, c'est ça, un peu Survie. Donc, c'est une association militante composée de bénévoles et qui font des choses remarquables pour sensibiliser, disons, les populations ici en France, mais également en Afrique, sur les pratiques illicites, déloyales, antidémocratiques, corruptrices, disons, des élites des deux côtés. Et donc, ils m'ont invité à parler des mouvements de résistance en Afrique, de la problématique de la dette et celle du franc CFA.
Je pensais que c'est fini la France-Afrique.
Disons que ça c'est une antienne vieille comme la France-Afrique et donc c'est même la devise de la France-Afrique.
Vous opposez à la zone de libre-échange continentale?
Tout à fait, parce que les mêmes raisons qui me font opposer aux accords de partenariat économique m'enjoignent à être, disons, aussi sur le bord de la résistance face à ces zones de libre-échange continentale. Qu'est-ce que ça dit en fait? C'est-à-dire qu'il faut limiter et qu'il faut supprimer progressivement toutes les barrières tarifaires, non tarifaires entre les pays africains. Et donc, lorsqu'on supprime toutes ces barrières tarifaires, non tarifaires, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup d'États qui dépendent des recettes, disons, douanières pour pouvoir financer les services publics et autres. Donc, qu'est-ce qui va advenir de ces États-là? Et généralement, l'argument qu'on donne pour les zones de libre-échange, c'est que ça va faciliter le commerce intra-africain, ça va créer la croissance. Mais le problème, c'est que dans la plupart des pays africains, il n'y a même pas de secteur bancaire développé. Dans les pays où les secteurs bancaires sont développés, il y a très peu de crédits pour financer l'économie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va aménager l'Afrique, disons, on va l'unir sur le plan commercial pour faciliter les opérations, disons, des grands monopoles étrangers qui viennent d'Europe, des États-Unis, de la Chine et autres. Et donc, ça veut dire que la production va être assurée par l'étranger et les Africains n'auront rien à produire. Et donc, ça, c'est un danger. Donc, c'est des projets qui sont, disons, inspirés par une logique, disons, néolibérale, qui ne tiennent pas compte, disons, des besoins domestiques des États et des populations. Et ce qui est d'autant plus grave dans ce projet, c'est qu'il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études. Et donc, les gens avancent des chiffres farfelus pour dire que ça va générer telle et telle retombée économique, alors que l'on sait que non, il n'y aura pas ces retombées-là. On sait qu'à chaque fois qu'il y a libéralisation commerciale, il y a des perdants et il y a des gagnants. On connaît plus ou moins qui seront les gagnants et qui seront les perdants. Donc après la question, c'est les mécanismes d'indemnisation. Et là, les partisans de la zone libre-échange continentale n'en parlent pas. Et évidemment, toutes les puissances de ce monde voient bien d'un bon œil ce projet de zone libre-échange continentale. Et donc ce qu'on appelle les accords de partenariat économique, disons le versant africain, c'est la zone libre-échange continentale. Et d'ailleurs, ceux qui portent ce projet disent qu'il faut partir des accords de partenariat économique. Alors que ces mêmes accords de partenariat économique, si on en croit à certains rapports de l'Union européenne, risquent d'avoir des conséquences catastrophiques pour les économies africaines. L'agriculture va, disons, se détériorer, il n'y aura pas de perspective d'industrialisation, il y aura un choc fiscal pour les États, et il y aura aussi des tensions sur les balances de paiement. Et déjà, ce que l'on voit, c'est que beaucoup de ce que l'on considère actuellement comme l'immigration illégale a pour source, disons, les destructions dues à ces politiques néolibérales-là. Par exemple, il y a des études qui montrent que la plupart des Ghanéens qui traversent la Méditerranée pour venir en Europe proviennent de régions qui ont été dévastées par la concurrence des produits chinois et européens. Et donc, à ces gens-là, on vous dit il faut libéraliser, il faut laisser les biens étrangers venir chez vous, détruire vos vies, mais on ne vous laisse pas la possibilité de circuler pour aller chercher où travailler. Et donc, c'est un peu ça la contradiction. Donc, on prend des mécanismes qui tiennent compte des diktats, disons, de la mondialisation néolibérale, et on impose ça au peuple, et ces peuples qui en pâtissent lorsqu'ils veulent... À changer d'air pour dire il faut quand même qu'on puisse travailler et nourrir nos familles, on leur dit non, vous ne pouvez pas bouger.
Vous dites non aujourd'hui à la zone de libre-échange continentale, mais dans 50-60 ans.
Ce sera possible d'ici 50-60 ans. En fait, tout dépend. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut laisser aux États, disons, la possibilité de disposer d'instruments de politique économique, comme par exemple la politique fiscale, la politique budgétaire, la politique de change, la politique monétaire, la politique industrielle commerciale, pour que ces États-là puissent, un temps soit peu, développer les marchés intérieurs. Pour que ces États-là puissent avoir les moyens de soutenir les populations. Mais si on dit que nous devons nous débarrasser de tous ces instruments tout de suite, au nom de l'intégration monétaire, au nom de l'intégration commerciale, pour moi, c'est paver la voie, disons, de la misère sociale et aussi de types de mécontentement qui peuvent déboucher sur des choses qu'on ne maîtrise pas.
Je suis en train de perdre mon casque. C'est on va aller jusqu'au château, là.
OK. Mais c'est sûr qu'en l'état actuel, c'est un projet qui n'est pas recommandable du tout, à mon avis.
Mais qui va se faire?
Qui va se faire parce que les chefs d'État africains, visiblement, ont pris cette option-là. Mais après, il faut voir, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État africains aussi dont les gouvernements ont besoin de ces recettes douanières-là pour exister. Donc la question qui va se poser, c'est où est-ce qu'ils vont trouver les ressources alternatives? Par exemple, dans le cas des accords de partenariat économique, on sait qu'il y a, normalement ça va déboucher sur les chocs fiscaux. L'Union européenne avait dit, oh, voilà, j'ai une somme que je vais mettre à vos dispositions, en tout cas en Afrique de l'Ouest, 6,5 milliards. Ces 6,5 milliards-là proviennent de l'aide qui existe déjà, donc ce n'est pas un supplément. Donc dans le cas africain, la question va se poser, les États qui perdront ces recettes douanières-là, qui va les indemniser? Et je pense qu'à ce niveau, il y a beaucoup d'États qui diront, voilà, prenons notre temps, le temps qu'on puisse trouver des ressources alternatives. Mais ces ressources alternatives, c'est par exemple plus de taxes sur la valeur ajoutée. Mais vous ne pouvez pas voir la taxe sur la valeur ajoutée remplacer, disons, les recettes fiscales si vous-même, vous ne produisez pas en interne assez. Et pour produire en interne, il faut y mettre les moyens. Un secteur bancaire qui accorde du crédit, un État qui est là, qui pour encadrer les PME et PMI, toutes choses qu'on ne trouve pas encore, disons, dans les pays africains, en tout cas pour la plupart d'entre eux.
Vous, en tant que conseiller, vous ne pouvez pas peser?
Mais généralement, nos conseils ne sont pas entendus parce que nous ne sommes pas si puissants finalement. Parce qu'il y en a d'autres qui sont plus ou moins dans l'ombre et voilà, et qui ont aussi des agendas politiques qui ne sont pas les nôtres en tant que simple conseiller, je veux dire simple technicien, entre guillemets, comme on nous appelle, technocrate. Et donc voilà, on peut juste faire des notes gentilles disant que voilà, il serait recommandé de faire ceci ou cela, mais la décision appartient aux politiciens. Et donc c'est ça là, toute la difficulté. Et généralement aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ceux qui dirigent nos pays s'engagent dans des projets que lorsque aussi ils en retirent des dividendes sur le plan politique et aussi sur le plan économique. Et donc généralement, les types de conseils que nous pouvons donner ne sont pas forcément ceux qui génèrent ces dividendes-là.
On a pénétré dans la cour du château des Ducs de Bretagne. Ah. On en profite pour faire un peu de tourisme.
Oui, oui, oui. C'est de super bâtiments. Toute une histoire.
Est-ce que, d'une certaine manière, c'est ne pas repenser, mais avec un axe plus économique, le panafricanisme?
Oui, c'est ce qu'il faudrait. Mais après, tout dépend de la perspective. Disons grosso modo qu'il y a deux perspectives. La perspective de l'offre et la perspective de la demande. La perspective de l'offre, c'est de dire que vous, en Afrique, vous n'avez pas suffisamment de capitaux. Les taux d'épargne sont très bas et donc vous avez besoin de l'investissement direct étranger. Vous avez besoin de l'aide étrangère. Vous n'avez pas assez de technologies, donc il faut qu'on vienne travailler à votre place, ce genre de choses. Et donc c'est ça qui justifie tous ces projets-là de zone de libre-échange continentale, de ce qu'ils appellent les réformes structurelles pour attirer l'investissement direct étranger, tout ça. Et donc qu'est-ce qui se passe? Généralement, on a fait ces réformes-là. Et donc ce qu'on appelle l'investissement direct étranger, finalement, ça investit au départ, mais après ça draine plus de ressources que n'a été investi. Et donc, ça ne crée pas beaucoup d'emplois, il n'y a pas de transfert de technologie. Et souvent, il y a aussi beaucoup d'extractivisme qui génère de la pollution, des maladies et autres. Donc, c'est la perspective qu'on a dominante qui est aussi dans l'air du temps. Un peu partout à travers le monde, aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Donc, c'est la perspective de l'offre, des politiques d'offre néolibérales. Il y a une autre perspective qui est la perspective de la demande et qui, moi, me convainc le plus. C'est de dire que, en fait, nous avons les ressources qu'il faut. On a la population, on a des terres, on a des ressources. Donc ce qu'il faudrait, c'est mobiliser ces ressources-là en interne. Et donc pour cela, il faut que les États, bien sûr, soient rendus plus démocratiques, mais aussi soient mis en position d'utiliser les différents instruments de souveraineté économique, comme par exemple la politique budgétaire, la politique monétaire, ce genre de choses. Souvent, par exemple, dans le cas, disons, du pays où je vis, le Sénégal, qui est membre de l'espace franc CFA, on nous dit que les banques centrales ne peuvent pas financer, par exemple, le déficit public de l'État. Il faut que les États passent par les marchés. Maintenant, c'est la tendance globale. Et donc, pour un pays pauvre, qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire que le déficit public, pour le résorber, il faut que nos États passent par les marchés financiers internationaux. Donc, au lieu d'emprunter facilement auprès de la banque centrale à des taux vraiment accessibles, on va emprunter 6-7% dans des devises étrangères.
Nous accompagnons dans la rue Ndongo Sambasila.
On va emprunter 6-7% dans des devises étrangères. Et souvent, l'argent de cette dette-là, disons, ne vient pas en Afrique. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a des fuites de capitaux. Donc il y a des travaux qui ont été faits montrant que à chaque fois qu'il y a, disons, $1 d'endettement en Afrique, c'est 60 centimes qui repartent tout de suite vers l'étranger. Et donc on a ces difficultés-là, de sorte que ce qui est important, c'est de pouvoir mobiliser les ressources internes. Et donc si on a un panafricanisme qui est basé sur la perspective de la demande, je pense qu'on peut faire des choses intéressantes. Mais là, c'est juste dire, baliser le terrain, nettoyer tout sur le plan réglementaire, tarifaire, pour que ceux qui disposent du capital, disons, aient le paradis qu'ils souhaitent. Et le paradis de ces investisseurs-là, disons, c'est l'enfer pour nos populations, malheureusement.
Copier le modèle de l'Union européenne.
Il ne le faut pas, mais malheureusement, j'entends
ça. C'est un peu ça.
Oui, c'est ça. Donc, on a un projet de monnaie unique à l'échelle de la CEDEAO. Et donc, c'est copier-coller par rapport au modèle de constitution de l'Union européenne. On a repris plus ou moins les mêmes indicateurs, ce qu'on appelle les critères de convergence, avec de légers changements. Par exemple, il y a cette règle du 3% du déficit public, qui est une invention française. Invention française parce que dans les années 80, Mitterrand était là, il voyait le déficit plonger et puis il disait, en fait, il avait chargé à des fonctionnaires de créer un indicateur qui ait l'air assez intimidant pour justifier sa politique d'austérité. Et donc là, ces fonctionnaires-là se sont réunis, ils ont planché et puis ils ont sorti cet indicateur-là. Il ne faut pas dépasser, faut pas que le déficit dépasse 3% du PIB. Et qui n'a aucune validité, je veux dire, économique, tout ça. C'est des gens qui l'ont inventé, qui l'ont mis là. Et donc, nous, on reprend ça, soi-disant pour nous inspirer du modèle européen qui ne marche pas. Pourquoi ? Parce que si vous voulez avoir une monnaie unique et qu'il n'y a pas de fédéralisme politique derrière, après, ce sont des polarisations. Il n'y a pas de convergence économique du tout. Donc, il y a des pays qui vont bénéficier comme l'Allemagne et d'autres qui vont pâtir comme la Grèce et autres. Et aussi, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des mécanismes d'ajustement, je veux dire, lorsque tel pays a un problème, que ce pays-là puisse s'ajuster autant que le pays qui a des difficultés. Par exemple, l'Allemagne aurait dû s'ajuster pour que la Grèce aussi puisse bénéficier d'une certaine solidarité. Et nous, malheureusement, parfois on parle de panafricanisme, mais un panafricanisme qui mime des expériences qui ont été faites ailleurs et qui n'ont pas toujours été des modèles, disons, de succès.
En ce qui concerne le continent africain, qui en bénéficiera le plus ?
Généralement, c'est les élites africaines et les multinationales qui en bénéficient, mais pas forcément les populations africaines, les gens ordinaires. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si jamais on doit aller vers un projet de monnaie unique, au départ, j'avais dit 2015 pour un ensemble de pays, un bloc de pays. Après 2020, donc on ne sait pas, peut-être qu'en 2020, ça ne va pas se tenir. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est que, par exemple, les 15 pays de la CEDEAO, qui est un projet d'intégration communautaire en Afrique de l'Ouest, ces 15 pays-là, ils sont assez hétérogènes. Et cette hétérogénéité se révèle à ceci, que le Nigeria pèse 75% de la production intérieure brute de la zone et plus de 50% de la population. Donc, il est difficile d'imaginer une intégration monétaire qui ne reflète pas les perspectives de ce géant au pied d'argile. D'autant plus que le Nigeria est un pays pétrolier. Et la plupart des autres pays de l'Afrique de l'Ouest sont des pays importateurs nets de pétrole et de produits alimentaires. Donc, ça veut dire que les cycles économiques ne seront pas synchrones entre les pays pétroliers comme le Nigeria et le reste. Donc, ces pays-là n'ont pas intérêt à partager une même monnaie. Donc, ce qu'il faudrait plutôt, c'est peut-être avoir, en tout cas, moi, c'est ce que je recommande, un type de système monétaire africain où on pourrait avoir une devise panafricaine qui servirait aux transactions entre les pays africains et entre l'Afrique et le reste du monde. Et cette devise panafricaine pourrait être articulée à des monnaies nationales ou à des blocs monétaires qui serait construit sur la base, disons, des spécialisations économiques. Par exemple, les pays pétroliers d'un côté, les pays miniers d'un côté, etc. C'est un peu comme ça que je vois les choses.
Ça vous fait peur l'économie, hein ?
Non, on est en ES.
Ah, super.
En première.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler du franc CFA ?
Non, pas du tout.
Non.
Vous ne savez pas ce que c'est?
Non, ça ne dit rien.
Pas du tout.
Si on dit France, ça vous évoque rien. France, c'est pas. C'est une monnaie qui circule en Afrique depuis les temps coloniaux et qui continue de circuler jusqu'à présent. Donc, c'est une monnaie qu'on partage, disons, 8 pays d'Afrique de l'Ouest et 6 pays d'Afrique centrale. Et donc, c'est une monnaie qui est garantie par le Trésor français. Donc, toutes les décisions qui concernent cette monnaie, en tout cas les plus importantes, sont prises depuis Paris ici. Et si vous m'offrez, par exemple, 100 euros et je retourne avec dans mon pays, lorsque je les change, les 50 euros reviennent ici dans les comptes du Trésor français, ce qu'on appelle les comptes d'opération. Donc ça, c'est la contrepartie pour garantir le franc CFA. Vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire?
Non.
Et qu'est-ce que ça vous inspire, si je vous... Voilà. Tel que je l'expose, qu'est-ce que ça vous inspire?
Ah, je ne sais pas du tout.
Vous avez eu des cours sur la monnaie?
Non.
Pas encore.
Mais qu'est-ce que vous pensez du franc CFA? Est-ce qu'il est normal qu'un autre pays... Voilà, contrôle la monnaie de 14 pays africains.
Je pense pas forcément, mais je sais pas. Ah, je sais pas du tout. Je pense que c'est pas un pays d'organiser l'argent dans notre pays, mais après, je sais pas, chacun gère comme il veut.
C'est pas logique du tout, parce que s'ils prennent une subvention entre guillemets dessus, ben, en gros c'est de l'arnaque quoi. Si tu ramènes 100 euros, que tu en récupères que 50. C'est trop inutile. Autant.
Mais ça sert pas à grand chose.
Est-ce que vous avez envie de creuser le sujet par la suite?
Non, pas forcément.
Parce que nous, on est là pour dire qu'on voudrait que la France sorte de la gestion du franc CFA. Et donc, on a besoin de solidarité ici en France, je veux dire à Nantes et un peu partout, pour dire que cette monnaie a été créée en 1945 par le général de Gaulle. Et c'est une monnaie qui bénéficie aux élites africaines, mais aussi aux entreprises françaises, européennes. Et donc, à chaque fois, chaque année, il y a, de larges surplus économiques qui sortent et voilà, qui ne bénéficient pas aux pays africains. Généralement, on dit qu'on aide les pays africains, alors que ce qui sort de l'Afrique est supérieur voilà, au montant, disons, de l'aide au développement et autres. Donc, on a besoin que les gens soient davantage sensibilisés sur le franc CFA pour pouvoir aussi relayer nos luttes qui nous semblent légitimes.
Que vous retenez de cette aventure d'interview en marchand dans la rue?
Je trouve que c'est la première fois que je fais cette interview marchande, disons, et c'est une superbe expérience. Je pense que c'est une démarche qui pourrait inspirer pas mal de, disons, de journalistes sénégalais, en tout cas, je le dirais. Le fait aussi de pouvoir, comme ça, rencontrer les gens, leur poser des questions sur un sujet, voilà, pas facile, pas connu, c'est aussi quelque chose qui est appréciable, c'est pas mal. Ce que je retiens, c'est que c'est un sujet qui n'est pas connu, mais généralement, les gens ont une opinion raisonnable. Ils ne connaissent pas, mais ils disent qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Donc, il faut que nous continuions à davantage rendre visible cette problématique-là. Et il est heureux que nous puissions avoir l'oreille attentive des radios comme la vôtre.
On peut se procurer vos livres?
Oui, c'est des livres qui ont été édités par une maison d'édition française, L'Harmattan, et donc voilà, qui sont relativement accessibles.
Merci à Ndongo Sambasila et merci aux deux lycéennes pour leur libre participation à ce programme réalisé avec le concours de l'association Survie.